Radio Barque 29e, notre troisième partie avec l'invité que nous présentions au début d'émission, Bernard De Vic. Alors je rappelle donc que vous êtes maire de Caves et que... un tout petit truc sur votre commune en quelque sorte, puis on passera ensuite à votre grande casquette qui est celle du PNR, mais votre commune Caves ainsi que Le Cadre, je crois Treille et puis une autre, avait à un moment envisagé une fusion de communes qui semblait bien engagée, et puis vous avez fait machine arrière, alors expliquez-nous le pourquoi.
Merci de me donner l'occasion très rapidement d'expliquer ce qui s'est passé. Donc effectivement, l'année dernière, à la même époque, les cinq maires de Fitou, Feuillat, Treille, Caves et bien sûr Le Cat se sont retrouvés pour réfléchir et regarder ce que pouvait être l'avenir en utilisant la modification de la loi sur les communes nouvelles, les projets de communes nouvelles. Nous sommes sur un même bassin de vie.
Il paraissait... Oui, c'était toutes des communes contiguës.
Contiguës, nous nous touchons, donc il n'était pas inutile. Et c'est faire preuve, je pense, d'intelligence, de regarder l'avenir avec, pourquoi pas, ce projet, l'utilisation de ce projet. Nous avons travaillé pendant quelques mois. Les services de l'État nous ont aidés pour nous donner ce que j'appellerais des données financière, parce que ce n'était pas facile de regarder l'avenir sans préciser les finances, notamment par rapport aux dotations.
Oui, il y avait un petit stimulant.
Il y avait
même.
Un petit stimulant.
Ah oui, un sérieux stimulant même.
Un bon petit stimulant. Par contre, l'application de la loi jusqu'en 2020 paraissait avec une certaine, je dirais, sérénité pour la gestion un peu politique et démocratique de ce projet, puisque chaque ancien maire gardait une position de maire adjoint dans la commune nouvelle. Mais à partir de 2020, le processus commun reprenait le dessus, ce qui veut dire que cette commune nouvelle n'avait plus aucune garantie pour la survie, employons ce mot, démocratique de chaque village. Comme l'avenir n'appartient à personne, ça a mis un petit peu en doute un certain nombre de possibilités. Deuxièmement, il fallait passer par une procédure très rapide et expliquer à une population d'un village qui est très attachée à son clocher qu'il fallait, dans les 3 mois, passer avec une nouvelle fiscalité, avec une nouvelle dimension communale, ce n'était pas aisé. D'autant plus qu'on nous exigeait la procédure du référendum dans une période politique, je parle de la fin de l'année 2015, et qui n'était pas quand même très facile.
Oui, donc en fait, il était très difficile en 3 mois d'oublier des siècles d'existence des communes et cet attachement... Qu'on l'apprécie ou pas, cet attachement de chacun à son clocher, à sa commune, il est vrai, il existe.
Tout à fait. Et le jeune maire que j'étais n'a pas voulu prendre le risque, comme d'ailleurs les autres, d'aller devant ce que j'appellerais le référendum. Et d'ailleurs, j'ai revu dans des réunions parisiennes un certain nombre de responsables politiques nationaux qui m'ont dit que, deuxièmement, ce système pouvait se mettre en place quand les communes étaient d'égales dimension. Oui. Le tort peut-être de ce projet, c'est d'avoir une grosse commune.
Donner l'impression que l'une allait avaler les
mécaniquement, autres. Mécaniquement, elle devenait un peu trop grosse à l'application du modèle, je dirais, commun dès 2020.
Oui, Michel, une remarque
là-dessus ? Oui, c'est exactement la même problématique, les mêmes difficultés d'ordre psychologique et culturel que les maires ont connues quand les communautés d'agglos leur ont été... Imposé.
Oui.
La différence.
Voilà, là, il n'y avait pas de référendum. Alors, Bernard De Vic, vous êtes là quand même principalement aujourd'hui en tant que président du PNR, ce parc naturel régional, que je vous demande de représenter pour nos auditeurs assez succinctement, et on entrera dans le vif du sujet après.
Alors, le parc naturel régional de la Narbonnaise, dont j'assume depuis bientôt 2 ans la présidence, je rappelle qu'il fait partie d'une famille de 51 parcs. Il y a 51 parcs en France, photo de 2016, ce qui représente 20% du territoire français, 4300 communes. Pour la grande région dans laquelle nous sommes, il y a 6 parcs et il y en a 2 en projet. Et troisièmement, si on revient sur la Narbonnaise, je rappelle que ce parc a été initié dans les années 90. Et je pense qu'il faut remercier les élus qui ont voulu, qui ont eu la volonté pendant plusieurs années de créer un syndicat de préfiguration, de se mettre d'accord sur un certain nombre de critères pour avoir ce qui a été signé par M. Frech il y a bientôt maintenant 7 à 8 ans, donc avoir cette fameuse charte qui détermine et qui donne le label sur un territoire, d'être un territoire d'exception sur lesquels on peut bâtir un certain nombre de choses.
Oui, parce qu'on se souvient en avoir parlé, en avoir entendu parler longtemps, avant que cela n'existe. Michel, une remarque.
Non, je voudrais simplement un petit rappel historique. Hein. Ce parc a été voulu initialement par Hubert Mouly.
Oui, exact. Oui.
Clairement. Et il a été institué en fait, par le président de la région de l'époque, qui s'appelait Jacques Blanc.
Jacques Blanc, exact aussi.
Et c'est M. Frech qui a signé.
Et voilà. Mais il y a eu une longue évolution.
Il faut, tout simplement parce que son nom l'indique, c'est la région qui est l'initiateur.
Qui a la compétence des parcs régionaux.
La compétence administrative et bien entendu financière, qu'il faut continuer à faire vivre.
Alors, contrairement à ce que certains pourraient penser, c'est un parc naturel dont le but n'est pas seulement de faire de la conservation des espèces.
Non,
il y a un volet développement.
C'est surtout, enfin moi c'est l'image et la volonté que je voudrais exprimer dans le cadre du comité syndical que j'ai la chance de présider. J'ai découvert cet outil. Comme me le rappelait tout à l'heure Michel, moi je suis avant tout dans mon passé un homme d'entreprise. J'ai pratiqué un certain nombre de stratégies sur un certain nombre de filières. Là je découvre la dimension d'un territoire d'exception qui peut apporter sur notre région un plus économique. À condition que tout le monde le veuille et que tout le monde joue dans la même direction. Je rappelle et je précise avec insistance qu'au départ, ce sont les élus. Donc ce sont les élus qui sont responsables. Donc la vingtaine de communes qui pratiquement peut s'identifier à ce qu'est l'agglo du Grand Narbonne, avec quelques exceptions près. Donc nous sommes tous ensemble obligés d'avoir ce regard différent sur l'avenir et avec un certain optimisme dans la construction de cet avenir. Je le rappelle, il faut du temps. Le temps est un allié parfois compliqué, mais là, je vais dans d'autres régions regarder ce qu'ont fait les autres parcs, je m'aperçois au bout de 25-30 ans qu'il y a une plus-value économique qui est sécrétée, mais je répète, la base, ce sont les élus. Donc il faut que chaque commune, chaque village, chaque mairie et chaque maire prennent possession de ce projet. Bien sûr, quand ils participent aux réunions, tout le monde est d'accord. Mais ensuite, dans leur quotidien, dans leur commune, à travers leur propre administration, à travers le propre citoyen, il faut qu'ils expliquent et il faut qu'ils partagent la dimension de ce parc. Avec des choses simples, au-delà du panneau qui... À l'entrée du village, je le rappelle, il me semble important que dans toute la communication de la commune, il faut rappeler que cette commune fait partie
du PNR.
Parc, du PNR de la Narbonnaise. Il y a un logo qui existe. Chaque parc a son propre logo, donc il peut être utilisé sur le papier à lettres. Ça donne un liant et ça oblige d'une façon quotidienne à se rappeler et à vouloir que ce parc ait une dimension différente. Autre exemple, comme vous le savez, je me bats pour que la fameuse ancienne route...
L'ancienne nationale 9.
Nationale 9, qui est devenue une départementale. Je me bats pour que ça devienne une route, je l'ai dit sous forme
accueillante,
tenue de correcte, exigée. Et petit à petit, on y arrive. Il y a un contrat de route qui est pratiquement fini dans son élaboration, avec les services de l'État, avec les services du département. Chaque commune y participe, ainsi que des acteurs économiques qu'il faut privilégier et qu'il faut aider, comme par exemple la filière vin. Et je m'aperçois que dans certaines communes, parfois, qui est traversée par cette route, il y a parfois des poubelles qui laissent à désirer des endroits où le touriste, qui est quand même nombreux dans cette région, peut avoir une mauvaise image, parce que dans le quotidien, on n'est pas assez attentif à une somme de détails, et cette somme de détails qui fera la richesse de notre avenir.
Alors parmi les actions très concrètes également, oui, il y a du travail, mais
c'est pour ça que c'est la pédagogie.
Vous nous disiez il y a un an justement, vous nous exposiez ce projet il y a un an, vous nous dites qu'il est sur les rails aujourd'hui, Bernard de Vic.
Il est sur les rails, sur la route.
Et sur les rails de la route.
Je suis en train de me battre avec Vinci ASF pour que nous ayons aussi la même sémantique, je dirais, au niveau de la panoptique.
Au niveau de l'autoroute.
Au niveau de l'autoroute, parce que quand on prend l'autoroute en France, très souvent les parcs naturels sont annoncés, qui permet au regard de l'automobiliste toujours prudent, de jeter un œil sur ce territoire. Mais nous avons un certain nombre d'outils, comme par exemple ce qu'on a inauguré il y a quelques mois, la maison de la CLAP, donc
à Vinassan,
que je vous conseille d'aller visiter, d'aller regarder le travail qu'a réalisé les experts du PAR sur cette maquette qui démontre, qui analyse, qui pédagogiquement détaille l'évolution géologique de notre territoire, de l'embouchure de l'Orbe jusqu'au niveau du Roussillon. On vit 2000 ans de la Narbonnaise avec des couleurs, avec une sorte de, ce que j'appellerais de maquette qui donne ce qu'a été, par exemple, l'Aude, pourquoi la Robine est née, pourquoi là il y a de la vigne, pourquoi il n'y en avait plus, pourquoi la Clape qui a été une île redevient désormais un massif sur cette bordure méditerranée. On voit la vieille nouvelle, comment ça évolue de cette zone lagunaire. Donc je recommande à tout le monde...
Pour mieux comprendre la géographie et la géologie de cette région...
Il faut visiter la maison de la CLAP
à Vinassan. Ouais. Alors parmi les actions importantes que vous menez au quotidien, il y a des actions sur l'agriculture. Et c'est pas toujours rose, puisque récemment, la presse locale faisait état de problèmes dans l'eau du robinet, avec des traces d'atrazine, d'autres pesticides. Et vous, en tant que président du PNR, forcément, vous vous dites « qu'est-ce que je fais, là ?»
Alors, ce que nous... c'est une bonne question. Compliqué, comme le dit Michel.
Compliqué,
comme vous... Compétence à goût, en plus.
Bien sûr. Donc, donc, comme vous le savez, donc, j'ai insisté sur cette dimension de notre territoire, d'autant plus que nous sommes sur un territoire où la vigne joue un rôle majeur, moteur historique et plein d'avenir. N'oublions pas que nous sommes dans la césure de deux périodes et que les vins de notre région, les appellations Corbière, Fitou ainsi que Pays d'Oc, devraient continuer à prospérer, notamment grâce à l'export. Et désormais, la société civile, bien entendu, est de plus en plus sensible à ce qui marque notre territoire dans son côté un petit peu... abrasif qu'a été, et puis les médias s'en servent aussi, il y a cette répulsion désormais acquise sur tout ce qui est pesticides avec des mots compliqués, les mots en ligne sont plus compliqués.
Oui, alors les gens comprennent pas toujours, sauf qu'ils comprennent que c'est du poison.
Et c'est dangereux. Alors, en sachant, bien entendu, je vais pas rentrer dans des débats trop techniques, mais que les traces qu'on trouve sont infinitésimales. Ça veut dire, c'est pas là qu'il y a le danger, mais le mot lui-même, dans sa valeur sémantique, fait peur. Et c'est normal. Et c'est normal parce que c'est vrai que là...
En tout cas, plus peur que le fumier de cheval, c'est sûr.
Et alors, c'est vrai. Oui, évidemment. Et ces traces, justement, de pesticides viennent, justement, de pesticides utilisés par l'agriculture.
Mais on ne dit pas assez, excusez-moi d'être reprendre la parole, on ne dit pas assez que sur la somme des tonnages de molécules utilisées au niveau français par rapport à... On cite le mot de multinationales, Bayer, je ne vais pas faire Monsanto ou autre. Il ne faut pas oublier que l'agriculture n'utilise même pas la moitié. Que l'autre moitié, c'est nous-mêmes, dans nos jardins, et sans oublier les collectivités territoriales diverses et variées qui continuent à désherber, même si on voit par exemple qu'à Armissan, le maire est arrivé à faire zéro pesticide ou herbicide dans sa commune. Il y a des progrès qui sont faits là aussi, mais je peux vous assurer...
Mais il est important de rappeler cette proportion.
Par contre, il y a ce qu'il y a de sûr, c'est que les viticulteurs, les agriculteurs de notre région ont ça en tête. Ils le savent. Ils savent qu'il y a des progrès à faire. Deuxièmement, le verdissement de la politique agricole commune, qu'on appelle la PAC, est en route. Vous savez que les nouvelles définitions des subventions qui sont données dans la modélisation des 3 ou 4 années qui viennent, le verdissement veut dire qu'il faut tout faire pour qu'il y en ait moins. Et dans le cadre de mesures de fonds européens qui sont désormais gérés par le Conseil régional, ces dotations vont être faites à partir de l'année prochaine pour que chaque viticulteur ou chaque agriculteur, désormais sur un programme déterminé, utilise moins, beaucoup moins, tous ces produits et en contrepartie quelques subventions. Et le parc a été, sur ce territoire, pris, nommé expert et nous travaillons en convention avec la Chambre d'agriculture pour faire avancer nos dossiers qui commencent à être travaillés dans le cadre de, je dirais, de relations, notamment le Conseil régional.
Et il y a parfois des opérations, alors symboliques, mais probablement efficaces aussi. Par exemple, cette chasse aux papillons Eudémis récente sur Canédone. Expliquez-nous en quelques ce genre.
Non, alors techniquement,
voilà, c'est très technique.
La confusion sexuelle.
Ce que la presse appelait la confusion sexuelle chez les papillons.
Chez les papillons. Non, mais tout ça, ce sont ce que j'appellerais
peut-être ça le résultat de la présence d'éoliennes sur le site de Canédone.
Tout ça prouve qu'il y a, nous travaillons d'une façon, je dirais, ambitieuse, et le parc joue un rôle d'expert reconnu et qui va s'adapter.
Il y a des expériences qui sont faites, qui sont probantes.
Et qui sont reprises même au niveau national. Vous savez, on m'a confié la présidence nationale du système agricole dans tous les parcs. Parcs régionaux et nationaux, et je mesure le rôle de l'agriculture dans le cadre un petit peu d'expérimentation pour donner sur ces territoires-là la possibilité d'être comparé à ce qui se fait ailleurs, notamment, je dirais, la volonté des deux ministères, que ce soit l'environnement et l'agriculture, c'est vu ce que vous venez de dire, que la société civile est très sensible à ça, les parcs naturels deviennent un petit peu les endroits où on cultive et on devient l'avenir.
On est un peu en pointe.
Sur ces territoires d'exception où il y a, au-delà de la vigne, si vous allez dans les Alpes, il y a tout ce qui est élevage. On m'a confié la présidence d'une filière qui est assez intéressante parce qu'elle est en même temps novatrice, expérimentale, et qui a permis récemment, au dernier salon de l'agriculture, de mesurer l'impact. Vous le savez, au dernier salon de l'agriculture, les problèmes d'élevage n'ont pas permis aux politiques en place actuellement d'être très populaires, puisqu'il y a eu quand même un certain nombre de périodes confuses.
Oui, mais bon. ça c'est un autre problème.
Ce que je veux dire, c'est que le concours agricole des prairies fleuries a eu une notoriété remarquable. Et au lieu d'avoir 10 éleveurs, il y avait des centaines d'éleveurs qui sont venus voir ce que peut représenter désormais la possibilité d'avoir une agriculture sur un territoire. Mmh. C'était le massif des Bauges, ça peut être les Pyrénées, certaines montagnes.
Voilà, donc il y a des exemples.
Des exemples concrets
qui sont intéressants. À propos d'exemples, il est peut-être petit mais aussi significatif. Vous parliez tout à l'heure de jardinage et de pollution. Vous avez fait récemment une petite opération au jardin des cheminots narbonnais, les incitant d'une part à moins utiliser de pesticides, mais aussi moins d'eau.
Moins d'eau, parce qu'il y a des petites, combines, astuces que nos experts ont mis en avant, qui peuvent être utilisées par le grand nombre et qui peuvent normalement faire comprendre dans un ménage, sur un foyer, un budget de ménage, soit récupérer quelques euros, ce qui est parfois bien intelligent et nécessaire, et en même temps moins utiliser ces fameux produits qui, cumulés à d'autres produits de milliers de foyers ou de ménages sur une petite ville ou une grande ville, amènent une pollution à terme de la nappe phréatique, autant et parfois plus que le font les agriculteurs.
Alors Bernard De Vic, on va conclure là-dessus. On a beaucoup parlé d'agriculture, c'est tout à fait logique. Maintenant, il y a quand même aussi un tourisme que vous cultivez, que vous voulez encourager, à la manière du PNR, si je puis dire.
Oui, il y a même des filières aussi économiques comme la glisse. Il faudrait qu'elle nous en
parle.
Il y a une manifestation devant la gare,
Monsieur Santo, je parlerai de la glisse.
Est-ce que vous serez avec Marianne Favre, Monsieur Courtois, avec les manifestants ?
Je parlerai de la glisse qui ne fait partie que d'un tout touristique dans lequel le parc joue un rôle. Je dis pas moteur, mais un rôle d'expert relativement important, puisque j'assiste de temps en temps à des réunions qui se déroulent au siège du parc, où toutes les parties prenantes de cette petite région sont représentées, de Fleury jusqu'à Le Cat. Nous avons de grandes stations touristiques qui ont vécu et qui ont vécu la dimension qu'avait donné le plan Racine il y a déjà 40 et quelques années. Nous allons changer d'époque et le parc fait partie des experts qui peuvent donner à la nouvelle époque, ce qui va être construit dans les 10 ans qui viennent, une vision différente. Quand je dis qu'une nouvelle vie s'invente ici, la partie touristique est essentielle.
Oui.
Alors, pour ne pas. Et d'ailleurs, on a reçu, on a vu, on a travaillé avec les experts aussi de la région. Et la présidente Carole Delga m'a quand même signifié qu'elle comptait sur nous pour l'aider à donner de nouvelles dimensions à notre littoral.
Oui, alors Bernard De Vic, je vous remercie et je vois qu'à chaque fois qu'on vous invite, il y a déjà une prochaine invitation qui se profile puisque vous parlez véritablement de projets qu'il nous faudra suivre. Merci en tout cas d'être venu nous parler partiellement, je le répète, de votre PNR et de ces actions très concrètes qui s'y mènent. Nous reviendrons une autre fois sur cette dimension tout aussi importante, le tourisme. Le prochain invité de Radio Barque, ce sera Jean-Marc Wagner, qui est le président de la CAPEB, c'est-à-dire les artisans chargés du bâtiment dans notre département. Merci et à la semaine prochaine. Voilà.